ce soir, c'est à nous d'ouvrir et de fermer la soirée. C'est pas une petite chose facile. Le départ. Yem est bien sur le départ, ça vient démarrer. Excellent, excellent présage.
Une femme, longue robe rouge déchirée, cheveux ébouriffés, marche. Son nom, il a été emporté par le vent. Alors, on la renomme. Certains l'appellent la pauvre folle, d'autres la mendiante aux pieds nus. Mais il y a aussi ceux qui l'appellent la bienheureuse. Que le soleil brûle ses pas ou qu'il pleuve, elle marche toujours en riant. Et tout à coup, en face d'elle, un jardin aux mille fleurs. Elle rentre à l'intérieur, elle s'assied sur un banc et elle contemple. Un garde arrive. pauvre folle, qu'est-ce que tu fais ici? Ici? Ici, c'est le jardin du chef du village. Mais je suis au-dessus du chef du village. Pauvre folle, au-dessus du chef du village, il y a l'émir. Mais je suis au-dessus de l'émir. Pauvre folle, au-dessus de l'émir, il y a le vizir. Mais je suis au-dessus du vizir. Pauvre folle, au-dessus du vizir, il y a le sultan. Mais je suis au-dessus du sultan. Pauvre folle, as-tu perdu la tête? Au-dessus du sultan, il y a Dieu. Mais je suis au-dessus de Dieu. Mais pauvre folle, au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Mais je suis rien. Avant, elle avait un nom. On l'appelait Khadija. Et c'était la plus belle femme de Marrakech. Quand on la voyait avancer sur la place du village, tous les regards se tournaient vers elle. Sa silhouette, ses longs cheveux noirs et ce sourire qui inspirait l'amour. Mais au moment où on croisait son regard, tous les regards se baissaient. On disait que Khadija était née au crépuscule et que la nuit avait fondu dans ses yeux. Ses yeux étaient d'un noir si brûlant et d'un feu si sombre que tous les regards se baissaient, même son mari n'osait pas la regarder dans les yeux. Son mari, c'était le plus riche marchand de drap de Marrakech. Ils avaient 3 enfants. Leur jour était heureux. Mais depuis quelque temps, quand Khadija s'endormait, elle pleurait, criait, gémissait. Son mari la réveillait et elle lui souriait. Dès qu'elle se rendormait, les cris, les gémissements reprenaient. Alors, elle décidait d'aller voir, vous savez qui? Le vieil ermite, le Yéman, qui habitait en haut de la montagne sous un olivier. On disait qu'il était né vieux et qu'il avait l'orteil gauche au paradis. Le marchand de drap a gravi la montagne et il a vu l'ermite. Il lui a tout raconté. Ta femme a de la peine, mais si tu veux savoir ce qu'il se passe au fond de son cœur, il y a une solution. Ce soir, quand elle dormira, va dans ta bergerie, tue ta brebis préférée, celle que tu aimes le plus. Arrache-lui le cœur et pose le cœur sur le cœur de ta femme endormie et écoute, car les cœurs se murmurent leurs secrets quand ils se croient seuls. Écoute. Le marchand de drap a remercié l'ermite. Il est rentré chez lui. Quand il est rentré chez lui, sa femme dormait. Il est allé dans sa bergerie, s'est approché de sa brebis préférée, lui a tordu le cou, lui a arraché le cœur. Il est allé dans sa chambre, sa femme dormait déjà. Il a posé le cœur de la brebis sur le cœur de sa femme endormie et il a écouté. Il a entendu le cœur de la brebis dire « Ma sœur, pourquoi tu pleures ? Il entendit le cœur de sa femme répondre. C'était juste avant de naître. J'ai entendu une voix. Une voix comme le souffle du vent qui me disait « Tu seras 7 ans femme mariée, 7 ans fille de joie, 7 ans mendiante aux pieds nus. » Quand le marchand de drap a entendu ça, il a pris le cœur de la brebis, il est descendu, il a lancé le cœur dans le feu. Et le lendemain, il est retourné voir l'ermite et lui a tout raconté. Ta femme a de la chance. Elle va connaître les 3 yamours. Mais elle ne veut pas de cette chance. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir?
Elle ne veut pas de cette chance, car elle ne sait pas qu'elle est bénie. Et toi, tu es marchand de drap. Et marchand de drap, tu resteras. Marchand de drap, tu resteras.
Le marchand de drap est rentré chez lui sans remercier l'ermite. Et quand il est arrivé, il a vu Khadija, plus belle que jamais. Parfumée, maquillée. Mais ma femme, pourquoi es-tu habillée ainsi? Mais enfin mon mari, c'est notre 7e anniversaire de mariage. L'aurais-tu oublié? Notre 7e anniversaire de mariage? Alors, il a senti à l'intérieur de son cœur un venin. C'était le venin de la jalousie. Et ce venin-là, on ne le garde pas en soi. Ce venin-là, on le crache. Alors, il lui a tout raconté. Il lui a raconté les cris, les gémissements, l'ermite, les cœurs qui se parlent. Et il lui a dit, tu seras 7 ans femme mariée, 7 ans fille de joie, 7 ans mendiante aux pieds nus. Je ne veux plus te voir. Elle n'a rien dit. Elle est montée dans la chambre où ses enfants dormaient. Elle les a serrés contre son cœur. Elle est montée dans le grenier. Elle a pris une corde et elle s'est pendue. Ce jour-là, le vent soufflait fort. Et comme le veut la tradition, on l'a enterrée la nuit même. Et Khadija a traversé le fleuve de la mort. Mais au bout du fleuve, il y avait la voix au souffle du vent. Khadija, ta vie n'est pas finie. Et la voix a soufflé sur Khadija et Khadija a retraversé le fleuve de la mort pour se retrouver sur le fleuve de sa vie enterrée vivante. Là, il y a quelqu'un qui a entendu quelque chose. Il a creusé dans la terre et il a vu Khadija. Quand il a vu ses yeux noirs, il n'a pas eu peur. Ça lui rappelait tous les vents qu'il avait traversés. Et quand il lui a parlé, il avait la même voix que l'ange au souffle du vent d'avant sa naissance. Elle s'est laissée s'approcher. Il a soufflé sur sa joue, sur son cœur, sur son corps. Ils sont partis ensemble au gré du vent. Mais un jour, il a disparu. Et Khadija a rencontré d'autres corps, d'autres frissons insoupçonnés. Et le corps de Khadija s'est enflammé. Et Khadija est devenue fille de joie. Mais pas n'importe quelle fille de joie. On disait que par le feu de ses caresses, elle pouvait guérir n'importe quel corps blessé. Quand le corps de Khadija a brûlé de tous les feux dont un corps peut brûler, 7 années avaient passé. Et dans son sommeil, elle a entendu la voix. Khadija, continue ton chemin, suis-moi, suit le souffle du vent. Et on a vu Radija partir avec un grand éclat de rire. Et elle a continué son chemin et c'est comme ça qu'elle est devenue mendiante aux pieds nus. Mais pas n'importe quelle mendiante. On disait que par l'éclat de son rire, elle pouvait consoler n'importe quelle tristesse. C'était à elle qu'on confiait ces secrets qu'on confie à personne. Et Radija a continué encore son chemin. Et au bout de cette année, elle s'est trouvée dans une ville qu'elle connaissait très bien, Marrakech. Elle a traversé la Médina et elle s'est arrêtée devant une grande porte bleue. Elle a cogné à la porte et il y a une jeune fille qui lui a ouvert. « Rentre, vieille mère, il y a une bonne soupe pour toi. » Tu m'as appelée vieille mère, mais tu ne crois pas si bien dire. Et elle lui a tout raconté. Et dans le coin, il y a un vieux marchand de draps qui a tout entendu. Il s'est approché d'elle. Il l'a regardée dans les yeux. Il n'a pas eu peur cette fois-ci. Ses yeux avaient tellement pleuré. Il l'a regardée dans ses yeux et il a reconnu la couleur des trois amours. « Ma femme, c'est toi. Je t'ai tant pleuré. Tu m'as pleuré. Eh bien maintenant, ris-moi. »
L'enfant, d'une dizaine d'années, s'est caché tout au bout du couloir à forme de L, celui qui sert de débarras où il y a tout et n'importe quoi, là où personne ne va jamais. Il se réjouit dans son fort intérieur qu'ici, personne ne le trouvera et qu'il s'agit seulement d'attendre. Bon, il sait que l'attente va être longue, mais ce n'est pas grave. Alors, il s'assoit et il cherche quelque chose à faire, à penser pour tuer le temps. Il met les mains dans ses poches, dans la gauche. Il a son petit couteau de type suisse que son père lui a donné pour la fin de l'année scolaire précédente. L'année très fière et parfois il sculpte des petits animaux avec des bouts de bois qu'il trouve dans la forêt. Dans sa poche droite, il y a trois haricots. C'est son père qui les lui a donnés en lui disant de manière très solennelle, « Mon fils, ce sont trois haricots magiques. Si tu en as besoin, ils te protégeront. » Là, l'enfant, il les a sortis, il les a dans la main, ils sont lisses et il les caresse. Il aime bien faire ça. C'est rassurant. Là, il hésite un moment et puis il les jette par terre et ferme les yeux. Les trois haricots commencent à vibrer, à frétiller, à bouger, à se plier et puis ils pénètrent dans les fissures du sol grossier, là, entre les carreaux et puis ils s'enfoncent vers là. Le cœur de la terre en s'efforçant de rejoindre le cœur de la terre. Et quelques instants plus tard, trois tiges sortent. Trois tiges vertes, pétantes, qui commencent à pousser, qui cherchent la lumière et se dirigent vers la fenêtre qui est ouverte sur le ciel bleu de cette fin d'été. Et déjà, en quelques instants, les trois tiges sont devenues bien grosses et s'entrelacent, s'entremêlent. Et maintenant, elles sortent par la fenêtre comme un seul tronc et continuent de pousser. Mmh. Wow. Et puis,
Ça s'épanouit avec des branches, des feuilles, et ça monte et disparaît au-dessus du nuage. Oh. L'enfant s'est dit, mais ça, c'est comme l'histoire que papa me raconte. Ma préférée quand il me raconte les contes le soir. Alors, puisque c'est comme ça, moi, à partir de ce moment, je m'appelle Jacques. Et le voilà, Jacques qui bondit sur le tronc, se faufile par la fenêtre et monte lui aussi. À un moment, il s'arrête, il regarde en bas, il est déjà bien loin, il voit son village et la forêt à côté. Et puis, il ne regarde plus, il continue de monter. Il monte, il passe à travers les nuages, dans le brouillard, mais il continue de monter sur le tronc des haricots. Et le haricot sort dans une grande forêt, épaisse, presque primordiale, puissante, beaucoup plus que les êtres humains qui peuvent s'égarer à l'intérieur. Moi, j'aime bien ça, à l'aventure. Et Jack commence à marcher avec un train. Et il traverse toute cette belle forêt jusqu'à arriver à une grande clairière. Là, au milieu de la clairière, il y a une maison gigantesque. Tout est gigantesque. La maison, le toit, la cheminée sur le toit, la porte, la fenêtre, même la fumée qui sort de la cheminée sur le toit, tout est gigantesque. Et là, Jack se dit, oulala. Vaut mieux faire attention. Il se cache derrière un buisson, il attend. Quelques instants plus tard, la grande porte s'ouvre. Il a bien fait, hein, parce que c'est un grand ogre noir qui sort, laid et gigantesque. L'ogre sort de la porte, fait le tour de la maison et disparaît derrière. Et comme la porte est restée ouverte, Jack en profite pour se faufiler à l'intérieur et se cacher derrière un coffre qui est juste là à l'entrée. Et ce qu'il voit, c'est une énorme pièce, au centre de laquelle il y a une table, autour de laquelle il y a de nombreux ogres noirs, et des ogresses aussi. Ah, ils sont laids, ils sont gros, ils sont bruyants. Derrière eux, il y a une énorme cheminée, l'une de celles où on rentre plusieurs ogres debout. Dans la cheminée, un grand feu, avec un chaudron qui bout. Il fait une chaleur. Parce que le feu est vraiment gigantesque comme la maison et tout le reste. Et puis, de l'autre côté de la pièce, il y a des cages. Et Jack avait bien entendu des bruits bizarres le moment où il était rentré. Et en fait, c'est des nombreuses cages dans lesquelles il y a beaucoup d'enfants, mais aussi quelques parents, sans doute tous ceux qui se sont perdus dans la forêt et que les ogres ont attrapés. Et ils sont là, les uns sur les autres. Et dans cette chaleur, ils sont à moitié nus et ils implorent, ils crient à manger, à boire, au moins à boire. Les ogres les regardent comme ça de loin. Et puis il y a celui qui est apparemment le chef qui se lève et dit « Hé, vous tous, faites silence. Si seulement on entend un gémissement, un pleur d'enfant, nous les mangerons. Silence !» Mais les autres ne se taisent pas. Hein. Alors, il se lève, il s'approche d'une des cages, ouvre la porte avec sa grosse main. Il attrape une dizaine de personnes et puis il les jette dans le chaudron. Ça crie. Une ogresse s'approche pour mettre du sel, des herbes. Puis elle tourne, elle suit la cuisson et puis les cris s'estompent. Et quand c'est cuit, elle sert le ragoût. Les ogres et les ogresses mangent avec un peu de soupe, du pain, du fromage. Mangent, boivent, rôtent et pètent. Et puis à la fin du repas, ils prennent des sacs qui sont sous la table, qui sont des sacs remplis de pièces d'or. Ils les comptent et quand ils ont fini, ils remettent les sacs par terre. Et là, un à un, une à une, ils s'endorment. Qui avachit sur la chaise, qui l'assiette, la tête dans l'assiette, et il ronfle à faire trembler les murs. Jack est toujours caché derrière le coffre. Et là, il se souvient que lui aussi, il a faim. Cela fait un moment qu'il n'a pas mangé. Alors, il sort de sa cachette, s'approche de la table, il se sert. Et puis, en voyant les mains tendues, en entendant les gémissements, il distribue ce qui reste à manger et à boire aux prisonniers. Il voudrait faire plus, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire, lui, avec son petit couteau type suisse? Il faudrait chercher les clés, mais les orques ont déjà se réveillent. Alors, il se cache sous la table, il prend l'un des sacs d'or et très discrètement, il sort de l'autre côté par la porte, sur l'arrière. Et là, il cherche une cachette pour son sac d'or. Et il est attiré par des miaulements. En effet, quelques mètres plus loin, derrière un rocher, il y a un gros chat qui miaule et quand Jacques arrive, il s'aperçoit qu'il essaye d'attraper une famille de souris qui est dans un trou. Et il y a la maman souris qui défend ses petits et qui tient tête au chat, mais elle a une mauvaise posture. Oh, ça fait vraiment de la peine. Alors Jack arrive et avec un coup de pied éloigne le chat qui est fâché, ça me va. Et maman souris est tellement contente.
Merci, merci. Merci mon garçon. Pour te remercier, je te fais un cadeau. Voilà. Tiens, une de mes moustaches. Eh bien, si tu la fixes très intensément, tu deviendras souris toi-même. Adieu.
Et la petite famille s'en va. En laissant libre le trou. Alors Jack met le sac dedans. Et puis il est curieux. Il fixe intensément et transformé en petite souris qui se faufile parmi les airs pour revenir vers la maison gigantesque. Il a bien fait. Hein? Il a bien fait parce qu'il s'était dit que peut-être d'ogre il y en avait bien à l'extérieur aussi. Et effectivement, il se cogne presque contre une paire de bottes vertes. Il y en a plusieurs de paires de bottes vertes chaussés par des énormes ailés ogres verts qui se camouflent parmi les buissons et les arbres, armés jusqu'aux dents, en entourant la grande maison. Jack, la petite souris, toujours en se faufilant, arrive à la porte, puisque c'est une petite souris maintenant, se faufile sous la porte, et va toujours se cacher derrière le coffre. La scène est la même. La grande pièce, chauffée par le grand feu dans la grande cheminée. Sur le grand feu, il y a toujours un grand chaudron parce que les ogres ont toujours faim. Autour de la table, toujours les ogres et les ogresses. Dans les cages, toujours les enfants et tous ces gens qui pleurent, qui crient, qui demande à boire, surtout s'il vous plaît, donnez-nous à boire, on n'a pas encore bu depuis qu'on est là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et les ogres les regardent et leur chef dit, bon, si vous n'avez pas à boire de l'eau, vous n'avez qu'à boire votre pipi. Et puis il y en a un qui se lève, qui ouvre une cage, avec la grande main d'ogre, en prend une dizaine, les jette dans le chaudron. L'ogresse cuisinière arrive pour assaisonner, remuer. Et quand tout est prêt, les ogres et les ogresses mangent, boivent, pétrotent, comptent leur argent et puis s'endorment. Bon. Là, Jack, la petite souris, sait ce qu'il doit faire maintenant. Il s'approche de la cage la plus petite, celle qui a les barreaux les plus fins et range, range, range. Range, 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 taille, range, range, range. Et de l'intérieur, les enfants et les femmes prisonniers qu'il y a l'aident à casser les barreaux et silencieusement, ils en sortent. Ils sont plus ou moins une trentaine. Il y a même des petits bébés dans les bras des mères. Et Jack et la petite souris dit, bébé, 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 vers le haricot, vers le haricot. Et tout le monde, silencieusement, sort par la porte arrière. Jack reprend sa forme d'enfant, les amène jusqu'au haricot et leur dit « Descendez vite, vite, vite !» Et puis à la dernière femme, il donne le sac qu'il avait caché dans le trou la fois précédente. Mon fils, que le ciel te bénisse. Merci beaucoup et pour te remercier, je t'ai fait un cadeau. À partir de ce moment, tu chieras de l'or. Elle s'en va. Moi, j'aime bien ça. C'est un cadeau intéressant. Par ailleurs, j'en ai envie. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe. L'enfant baisse son pantalon et commence à se soulager. Un bruit. Il lève les yeux. Devant lui, il y a une ogresse tout habillée en noir de la tête aux pieds qui le regarde fixement avec des yeux écarquillés de surprise. Lui, il soutient ce regard avec les yeux écarquillés de peur et d'embarras. Quelques secondes s'écoulent, les deux restent immobiles. Et puis il y a un petit sourire entre le narquois et l'amusé qui se dessine sur la bouche de l'ogresse. Une voix l'appelle de loin.
Alors, c'était quoi ce bruit? Oh non, juste une petite souris.
Et elle s'en va. L'enfant referme à nouveau les yeux. Il se lève. Effectivement. Ah. Effectivement, il a chié de l'or. Ça sent pas bon, ça sent pas la rose, mais c'est de l'or. Waouh, c'est vraiment génial ça. Et là, exactement à ce moment, pendant qu'il remonte son pantalon, il entend les autres verres de l'extérieur qui entourent la maison crier vers l'intérieur.
Nous savons que vous êtes là. Rendez-vous.
Et les autres de l'intérieur qui crient
« Non, jamais de la vie !»« Libérez au moins les otages, rendez-nous les enfants !»« Non, les enfants nous appartiennent, si vous les voulez, vous devez passer sur nos corps !»« Et alors, nous viendrons les prendre !»
Et ratatatatata, ça commence à partir, ratatatata !«
Vous voulez la guerre? Eh bien, ce sera la guerre !»
Et Jack retourne vers la porte arrière pour rentrer à nouveau dans la grande maison et voir ce qu'il peut faire pour sauver ceux qui sont à l'intérieur. À ce moment-là, il y a un énorme bruit comme une explosion de volcan jusqu'à faire trembler le sol comme un tonnerre qui tombait sur la maison. Et quand Jack arrive, il voit que la cheminée a été complètement détruite. Il ne sait pas comment ça s'est passé. Le chaudron est renversé et le feu commence à se propager en dehors. Une partie du toit et des murs se sont écroulés et ont écrasé une partie des orques et aussi des enfants. Et là, maintenant, c'est le chaos. Il y a de la poussière de partout, il y a de la fumée, il y a des gens qui crient, les ogres aussi, et c'est la cohue. On ne comprend plus rien. Maintenant, les ogres essaient de sortir, mais ratatatata. Alors, Jack, avec le feu, commence à faire brûler les barreaux des autres cages. Parce que maintenant, les ogres ne regardent plus les prisonniers. Alors, les prisonniers essaient de se libérer. Et en effet, ils réussissent. Mais là, dans toute cette cohue, avec tous ces gens, on ne sait plus où partir, où sortir. Ratatatata. Dès qu'il y a quelqu'un qui sort à l'extérieur, les ogres verts, ratatata. Et Jack dit, venez avec moi, vers le haricot. Alors on le suit. Et dit, vite, descendez, moi je descendrai en dernier, comme ça après je couperai le haricot pour que les autres ogres n'y viennent pas. Les ogres à l'intérieur, maintenant ils voient que la partie est perdue, ils essayent de se sauver et ils se déshabillent pour être comme les êtres humains, pour qu'ils puissent se confondre dans la foule. Mais quelle bêtise! Un ogre, même un culotte, même tout nu, on voit tout de suite que c'est un ogre. Et les gens descendent par le haricot. Vite. Et un dernier, c'est Jack. Et quand il arrive en bas, il a son petit couteau type suisse à la main Et commence à couper, à tailler, et tailler, taille, vite, les encres arrivent, vite. Et finalement, le haricot tombe. Avec un grand fracas, en écrasant les dernières encres. En silence, presque irréel, à juste quelques très lointain. L'enfant, toujours assis par terre, au bout du couloir à forme de L, là où personne ne va jamais, parce qu'il sert de débarras où on met tout et n'importe quoi, ouvre les yeux, regarde le ciel bleu de ce beau mois de septembre, et se lève et regarde par la fenêtre. Il n'y a plus personne, juste quelques bruits au loin. Il est resté ici, caché, pendant 3 jours et 2 nuits, sans manger, juste en se racontant des histoires. Et il n'a pas bu non plus, et il a bu son pipi. Mais là, maintenant, il n'en peut plus. Alors, il sort par la fenêtre qui est au rez-de-chaussée. Et il traverse la pelouse jusqu'à arriver au portail. Et puis, il sort par le portail de celle qui était son école. Et là, à l'extérieur, dans la rue, il y a beaucoup de monde. Il y a des gens de son quartier qui pleurent, des ogres verts, des infirmiers. Il y a beaucoup de monde, des camions militaires, des fourgonnettes de la télé, des pompiers. Et lui, il cherche dans la foule. Et puis soudain, il crie « Papa !» Et là, son monde s'arrête de tourner. Oh, comment c'est bon, l'odeur de la sueur de son père. Mais comment c'est bon de s'appuyer contre ce pilier. Comment c'est doux le visage de son enfant que l'homme ne pensait plus revoir. Le temps s'étire et il crée un moment d'éternité. Ah, mon fils, tu sens pas la rose, mais je suis très content de te revoir.
Papa, tu sais, maintenant je chie de l'or.
Bien, mon fils, c'est bien. Comme ça, on deviendra riche, on vivra heureux jusqu'à la fin de nos jours.
Papa, tu sais, les haricots magiques que tu m'as donnés, ils sont vraiment magiques, tu sais.
Eh ben quoi? Est-ce que moi, je te raconte des histoires, hein? Allez, maman nous attend avec une bonne soupe à la maison. On rentre. Et on l'a dit de partout, sur toutes les télés, les radios, les journaux du monde entier, ce qui s'est passé ce jour-là, à la rentrée 2004, à Beslan, un petit village, à nos cités du Nord. On a raconté comment les ogres noirs tchétchènes, ces terroristes, ont pris en otage toute une école entière avec les enfants, les parents, les enseignants. On a aussi essayé de raconter les gestes
les ogres verts de l'armée russe, partis pour les sauver. Mais un ogre, il peut être noir, vert, blanc, rouge. Un ogre reste un ogre et tire sur tout ce qui bouge. Et dans quelques journaux, on a aussi, mais très très peu, on a aussi raconté l'histoire de Otar, un garçon d'une dizaine d'années, qui s'est caché dans un endroit dans une école où personne ne l'a retrouvé. Il a tenu pendant 3 jours et 2 nuits en se racontant les histoires que son père lui racontait tous les soirs, et surtout son histoire préférée, celle de Jack et le haricot magique. Et surtout en tenant pendant tout ce temps-là dans sa main les 3 haricots que son père lui avait donnés. Qui dit que la magie n'existe pas,
On a fait sortir des choses de notre marmite ces 3 jours. Et aujourd'hui, notamment, on a parlé de naissance, on a parlé de contes. J'ai évoqué cette histoire où le vieux Vajnamojnin de l'épopée finlandaise du Kalevala, il naît lui-même en déclenchant l'accouchement avec son gros doigt de pied. Et il naît vieux. Alors je me suis dit que j'allais raconter une histoire de naissance, une histoire guémante. Ah, c'est désaccordé, vous m'excuserez. Vaut mieux faire ça tout de suite. Autrefois, sur l'île de la Tortue, vivait une vieille femme et une toute jeune fille. Un jour que la jeunette était partie se baigner dans l'eau, dans la mer, qu'elle était en train de nager au milieu des fleurs d'écume, tout à coup un rayon de soleil s'est posé sur elle. Et lorsqu'elle est sortie de l'eau, elle avait le ventre rebondi. Elle a fait 9 pas sur la plage, elle s'est accroupie au pied d'un arbre et elle a mis au monde Manapou, un garçon, son fils. Alors elle l'a présenté à la terre, elle l'a montré aux étoiles et puis elle l'a mis dans les mains de la grand-mère et elle lui a dit « Grand-mère, je vais devoir partir, est-ce que tu veux bien t'en occuper ?» La grand-mère a dit « Oui, c'est sûr, je vais m'en occuper. » Alors la grand-mère a pris l'enfant. Et la jeune fille est retournée dans l'eau, c'était la nuit, c'était sous les étoiles. Elle a nagé au milieu des fleurs d'écume, un rayon de lune s'est posé sur elle et elle a disparu. Et le bébé est resté avec sa grand-mère. Et cette première nuit, pour vous dire, c'était un drôle de bébé. Cette première nuit, il a aperçu les étoiles du ciel et la Voie lactée. Et cette première nuit, il a aperçu des choses que les autres ne voient pas. Au milieu des étoiles, quelque chose qui brillait. Le deuxième jour, il a écouté. Il a entendu les vagues de la mer, le chant de la rivière un peu plus loin, les abeilles, les libellules. Il a entendu le vent, le cri des oiseaux. Le troisième jour, pour vous dire que c'était quand même un drôle de bébé, le troisième jour, il a parlé avec sa bouche d'homme et il a dit à la grand-mère, « Grand-mère, demain tu me poseras par terre, j'ai envie de gambader. » La grand-mère a dit, « On va voir, ça m'étonnerait un peu. » Mais le lendemain, elle l'a posé par terre et voilà que Manapou s'est mis à gambader. Il a couru au milieu des papillons, il a fait la course aux lièvres, il a même été marcher sur l'eau et puis ramper jusque sur le dos des grands orques. Ça, c'était le quatrième jour. Le cinquième jour, c'était déjà un garçon robuste. Le sixième, c'était un jeune homme. Et le septième, c'était un homme. Et alors, la grand-mère a dit à ce moment-là, « Tu sais, je suis bien fatiguée. » Elle lui a dit, « Grand-mère, allonge-toi. » Alors elle s'est allongée, elle a fermé les yeux. Elle les a rouverts un moment et elle a dit, « Tu sais, je crois que je vais être ailleurs. Je crois que je ne vais pas pouvoir rester avec toi. Mais tu sais, mes cheveux vont devenir des herbes de la prairie. Mes bras vont devenir des rivières. Mon ventre sera la colline. » Et puis elle a fermé les yeux. Elle est devenue rivière, herbe, colline. Et Manapou est resté seul. Alors bien sûr, il avait la compagnie des animaux. La compagnie du vent, du feu, des vagues. Mais il lui manquait quelque chose, il lui manquait un compagnon qui puisse échanger avec lui. Et justement, la mère des loups, cette nuit-là, mit au monde 7 louveteaux. Et comme elle voyait l'état dans lequel était Manapou, qu'il était seul et qu'elle avait un des petits qui était vraiment bizarre, un petit loup aimant, étrange. Elle lui dit, écoute, ce serait bien que tu t'occupes du petit là. Hein, je ne peux pas moi m'en occuper parce qu'il est vraiment bizarre, toi tu pourras. Alors il a dit d'accord, il a pris le petit loup et il a vu que le petit loup a levé le museau vers les étoiles. Il voyait tous les planètes, les comètes, la Voie lactée. Et il voyait des choses que personne ne voit, comme à travers un filet étrange. Le deuxième jour, le petit loup a dressé les oreilles. Et là, il entendait tous les sons de la nature, et même des choses qu'on n'entend pas. Le troisième jour, il a parlé avec sa bouche de loup, sa gueule de loup, et il a dit, « Demain matin, tu me poseras par terre parce que j'ai vraiment envie de gambader. » Manapou lui a dit, on verra bien. Et bien le lendemain, c'était tout vu, il s'est mis à gambader, à sauter, à cabrioler, à partir un peu à droite, à gauche, à même s'absenter quelque temps. Et puis voilà, le cinquième jour, c'était un garçon loup, le sixième, c'était un jeune loup, et le septième, c'était devenu un grand loup. Et ces deux-là sont devenus inséparables. C'est ainsi qu'ils ont découvert tous les deux l'île de la tortue. Mais bien vite, le loup s'absentait parfois un jour, deux jours. Manapou se demandait où il était passé, il cherchait à droite, à gauche, mais le loup finissait toujours par revenir. Puis, il partit une longue semaine. Manapou criait, il allait sur les rochers, il montait sur les collines, il lui disait « Où es-tu ? Tu es tu ?» Personne ne répondait, mais il finissait toujours par revenir. Un jour, il partit tout un mois. Cette fois-ci, Manapou croyait qu'il ne reviendrait pas. Et pourtant, il revint et il lui raconta ce qu'il voyait au loin, des paysages que Manapou ne connaissait pas. Il partit 6 mois. Puis, il ne revint pas. Alors Manapou, un jour après tous ces cris dans la nature, tous ces appels, toutes ces espérances, un jour il s'est assis sur un rocher et il s'est mis à pleurer. À pleurer ce frère loup. Et puis, il a entendu sa voix. Alors il s'est retourné à droite, à gauche. Il lui a dit, où es-tu ? Je sais que tu es là. Il a entendu la voix du loup qui lui a dit
« Oui, je suis là. »
« Mais où es-tu? Je ne te vois pas. »
« Tu vas trouver ça bien étrange, » dit le loup. « C'est que je suis passé de la plus grande distance qu'il y a à l'extérieur. Je suis maintenant à l'intérieur de toi-même. Dedans. Mais comment c'est où tu es? Alors c'est très loin, mais c'est très près. C'est... Et le loup ne trouvait pas les mots. C'est difficile, quand on a traversé le voile, de raconter à celui qui est de l'autre côté comment c'est fait. On n'a pas les mots, on n'a pas les images. Et c'est là que le loup lui a raconté la première histoire qui jamais fut dite. Et cette histoire, c'était des images, pour qu'on puisse un peu goûter, approcher la vérité cachée des choses. Et c'est ainsi que Manapou est devenu le premier conteur. Et j'ai pu le vérifier ces 3 jours. Que ce soit les femmes ou les hommes qui étaient avec moi dans ce groupe, ils ont tous un loup ou une louve qui leur parle de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'ils racontent. Et c'est pour ça qu'ils racontent ce que le loup y aime et ce qu'il aime.
Mais c'est des forêts qu'il n'y a plus vraiment maintenant. C'est des forêts avec de très très grands arbres. De très très vieux arbres. On n'arrive pas à faire le tour avec les bras tellement ils sont immenses. Il faudrait s'y mettre à plusieurs. Mais ce troll, il est là, tout seul. Il est chez lui. Et comme tous les jours, ce troll, il a décidé de suivre son chemin. De marcher. De marcher vers ses pensées. De continuer à avancer et de ne pas s'arrêter. Alors il enfile ses petites bottes jaunes. Il a des grands cheveux de troll blancs. Il est beau, il a une petite boule de troll, il n'est pas plus grand que ça. Et il y va. Il voit son chemin et il avance. Il connaît par cœur sa forêt. Il sait exactement où sont les arbres, il sait exactement où sont les pierres. Il a l'habitude. Il marche du coup sans vraiment regarder. Juste, il y va. Et il suit ses pensées. Il marche tranquillement. Il avance. Ce qu'il ne voit pas, c'est que là, derrière cet arbre, il y a de caché un rat. Ce rat le voit. Et se dit, tiens, j'ai faim. J'ai très très faim. Ce petit troll-là, ça fera un super repas quand même. Mais le troll ne s'en rend pas compte. Il continue à avancer. Le rat le suit tranquillement. Le troll, lui, suit le chemin et ses pensées. Un peu plus loin, il y a une sorcière en train de cueillir des champignons. Elle voit le rat. Elle se dit, tiens, un rat. Je pourrais me servir de sa queue une fois qu'elle sera séchée pour faire une potion magique. Oh, un troll! Ça, c'est bien, les trolls. Ça peut sauver plein de trucs, les trolls. Il faut que je l'attrape aussi. Donc, elle se met à le suivre. Tranquillement. Le troll, lui, ne s'en rend pas compte. Il continue à suivre ce chemin et ses pensées. Le rat suit le troll, ne voit pas la sorcière. Et il continue à marcher. Caché, encore. Derrière un arbre, un renard. Ah, j'ai faim, il y a longtemps que je n'ai pas mangé. Un troll, ça me fera un super dessert, je sais que ça a un petit goût sucré. Oh, une sorcière. Je ne suis vraiment pas sûre d'y aller.
mais peut-être que j'arriverai à la filouter. Le renard se met à les suivre. Le renard suit la sorcière suit le rat suit le troll. Le troll, il avance sur le chemin de ses pensées. Il marche tranquillement. Derrière un énorme rocher, il y a un ogre qui se gratte les fesses tranquillement. Ça le gratte très fort. Le troll suit ses pensées. L'ogre voit le troll.
J'ai jamais, jamais goûté de troll. Peut-être que...
Oh, une sorcière, ça se croque vite fait. Un renard, ça fera des poussières dans la grotte. Il se met également à les suivre. Le troll, lui, suit son chemin et ses pensées. Il marche tranquillement quand un rayon de soleil se tape dans son œil comme un clin d'œil de fée. Il s'arrête net. Regarde en haut. Le ciel, tout va bien. Regarde en bas, ses bottes sont toujours là. Regarde à gauche, rien de spécial. Regarde à droite et continue à suivre le chemin de ses pensées. Un rayon de soleil un peu plus fort, et là la fée lui fait des appels de phare, clairement. Le troll a peur. Il fait quoi ? Un, deux, trois. Ah ! Un rat. Il se faufile entre ses pattes et il se sauve très vite. La sorcière, mais vu qu'il est tout petit comme ça, il passe entre ses jambes et il s'en va. Le renard. En fait, on m'appelle plus loin, donc il s'en va très 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 vite. L'ogre n'a pas le temps de réagir que le troll est déjà parti. Sauf que le rat, quand il se retrouve nez à nez avec la sorcière. Il se souvient qu'en fait, il est appelé là-bas, donc il part très très vite aussi. La sorcière se retourne, voit le renard, se dit tiens qu'elle allait le prendre, mais en fait, l'ogre l'avait déjà attrapé pour faire ses poussières. Puis la sorcière a eu très peur, s'est envolée sur son balai. L'ogre se retrouve tout seul, il le cherche un peu partout, le troll, lâche le renard s'enfuit rapidement et il comprend pas comment ça se fait qu'il se retrouve tout seul là, comme un bêta. Mais le troll, il a eu peur ce jour-là. Il ne s'est pas senti bien dans sa forêt. Avec ses petites bottes jaunes, il a couru très très loin, il a couru très très vite. À tel point que ses petites bottes jaunes se sont mises à chauffer, à fondre, jusqu'à ce qu'il trouve un énorme sol pleureur. Il s'est caché en dessous. Il l'a encerclé très très fort. Et il a dit, Yen est ici. Yen, les petites fées. Maintenant, je suis en sécurité.
Excuserez, hein. Attends, j'ai fait ça. Je l'ai posé, on ne le voit pas. Voilà, nickel. Comme ça, je vois personne. Super. Bon, avant de commencer, je vais répondre à une question que tout le monde se pose, sans exception. Non, j'ai pas perdu ma chaussure en venant ici. Je vais simplement donner un jour de congé. Demain, c'est au tour de l'autre. Il était une fois un jeune garçon, un jeune voyageur. Il s'appelle Joe. Joe, il est au volant de sa voiture et juste derrière, sa caravane est accrochée. Il traverse toute la France du nord au sud pour aller au Sainte-Marie-de-la-Mer. Retrouver toute sa famille, ses amis, faire la fête et célébrer. Et pendant que Joe est au volant de sa voiture, Eh bien là, ça commence à sentir le chaud dans l'habitacle. La voiture a des trous dans l'accélération. La voiture se met à freiner, accélérer, et sur le tableau de bord, tout commence à s'allumer, même la réserve, enfin bon. Là, quand ça fait le sapin de Noël, c'est jamais bon signe. Et finalement, la voiture tombe définitivement en panne à la sortie d'un village. Elle refuse de démarrer, et Joe, il est coincé. Juste à la sortie du village, là, comme presque tous les villages, il y a un champ de foire, et bien Joe, il s'est installé là. Sort de la voiture, il cale la caravane, parce qu'il sait très bien qu'il va rester là un petit moment. Quand il a terminé de caler la caravane, et bien Joe commence à avoir faim. Commence à avoir faim, très faim, dans son portefeuille, rien du tout dans sa voiture, encore moins. Ben, il n'a rien à s'acheter, rien à se manger. Mais juste en face, de l'autre côté de la route, il y a une maison et la lumière à l'intérieur. Alors Joe traverse, arrive devant la porte et toque. Une jeune femme ouvre et Joe se présente. Voilà, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis tombé en panne juste en face et j'ai faim, j'ai rien, est-ce que vous avez quelque chose à me dépanner? Je vous rassure, je vais venir vous rembourser juste après. Hein. Bah, la jeune femme, elle lui dit, bah, tu tombes mal là. Je suis en train de faire les devoirs aux enfants, je n'ai rien préparé à manger, mon mari il rentre dans un petit moment, il n'y a rien qui est prêt, si à la limite rentre dans la maison, je te laisse la cuisine et tu prépares à manger pour tout le monde. Bon, Joe, ça le surprend un peu qu'on laisse rentrer dans une maison aussi facilement, mais il a faim, alors il rentre. Joe arrive dans la cuisine, commence à préparer, bon il ne connaît pas la cuisine, il fait quelque chose de simple, une soupe. Récupère des carottes, des pommes de terre, des oignons, de l'ail. Commence à préparer la soupe. Dans la cuisine, ça sent bon. Après quelques minutes, il va pour goûter à la soupe, mais le mari de la femme arrive. Autant vous dire qu'il est assez surpris de voir un homme dans sa cuisine en train de cuisiner. Sa femme lui raconte tout, elle lui explique et le mari va voir Joe. Bon, merci d'avoir fait à manger pour la famille, vraiment. On va pas vous garder plus longtemps, on va pas gaspiller votre temps qui est précieux. Allez, bonne soirée. Et Joel se retrouve dehors. La porte verrouillée juste derrière lui, il n'a même pas eu le temps de goûter à la soupe qu'il a préparée. Ben ça, c'est vraiment pas de chance. Mais de toute façon, Joe, il a jamais eu de chance. Déjà, tout petit, quand il joue aux billes, ben, il suffit de courir un peu, son sac se déchire, il perd tout par terre, il tombe à cause des billes, il roule, il se fout la cheville, enfin vraiment, c'est pas de chance. Même en vélo, à chaque fois, il crève. Ses parents en ont eu marre, ils ont mis des roues en bois, il arrive quand même à les casser. Enfin vraiment, il n'a pas de chance du tout. Et là, il en a tellement marre qu'il décide de marcher le long de la route. Et pendant qu'il marche, il a l'impression d'être comme espionné, regardé, épié, enfin vraiment il en a marre. Et au bout d'un moment il se retourne et dit, bon, qu'est-ce qu'il y a là? Et là, derrière lui, quelqu'un, quelque chose, il dit, qu'est-ce que tu me veux là? Bah Joe, tu me reconnais pas? Alors, ça me fait de la peine vraiment, mais c'est moi. Oui, c'est toi. C'est moi, c'est ta malchance, ta misère. Hein? Ben oui, depuis que t'es tout petit, je suis avec toi. On est ensemble, on partage des bons moments, enfin. Ma misère, ma malchance. Ben oui, Joe, enfin, tu sais, les sacs de billes tombés, la cheville foulée, c'est moi. Tu sais, le portefeuille perdu et retrouvé quelques jours plus tard quand t'as changé ta carte bleue, c'est moi aussi. La voiture qui tombe en panne, c'est grâce à moi, à cause de toi. Ben ouais. Mais va voir quelqu'un d'autre, laisse-moi tranquille. Ben non, Joe, je suis trop bien avec toi. T'es trop gentil, t'es trop honnête et... Non, vraiment, je vais rester avec toi. Et Joe, il a tout essayé. Il a essayé de négocier, mais la misère ne veut rien entendre. Alors, il retourne à sa caravane. Il ouvre le coffre, prend une pelle et... dans le champ juste derrière. Il commence à creuser. Et il creuse, creuse un trou large et profond. Et la misère, elle le regarde faire, elle dit, bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah là, j'en ai marre, j'ai pas de chance, il n'y a rien de bon qui m'arrive, j'ai qu'une envie maintenant, c'est de me mettre au fond du trou et d'y rester. Bah tiens, tu veux pas me rendre un service pour une fois? Va dans le trou et regarde si c'est au moins à ma taille, quoi. Bon, pour la misère, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il est tellement sympa, elle peut au moins faire ça pour lui. La misère saute dans le trou, elle s'allonge, elle lui fait signe que tout va bien. Et Joe, il prend sa pelle, il rebouche tout, il tasse avec son pied. Quand tout est bien dur, bien ferme, là... Joe respire. Il ne se sent pas observé, ni suivi, rien du tout. Fait quelques pas et... Par terre, un billet de 5 euros, alors ça, c'est de la chance. Avec ses 5 euros, il va s'acheter une petite pizza, là, dans le village. Il la déguste dans sa caravane, et ce soir-là, il dort bien, mais bien. Lendemain matin, il ouvre la porte de sa caravane. Devant la caravane, une poule. La poule a peur, elle pond un œuf, il a son petit-déj. Ça, c'est de la chance. Joe, il profite, et ce matin-là, justement, c'est jour du marché. Dans sa voiture, il lui reste quelques paniers. Il va vendre au marché et Joe, il vend tout à un très, très, très bon prix. Et pour lui, tout va bien. Et les gens du village viennent le voir, on lui amène des pommes, des fruits, des légumes, on l'apprécie. Et même, il y a un vieux dans le village qui dit, hey, « Hé, Joe, si tu veux, j'ai une vieille voiture au fond du jardin, elle prend la rouille, ben, si tu veux, elle est pour toi. » Et au fond du jardin, c'est une belle Mercedes de 1995, très peu de kilomètres, elle démarre au premier coup de pied, enfin vraiment le top du top. Il n'a même pas eu besoin d'acheter une nouvelle voiture, on lui en donne une. Pour Joe, c'est de la chance. Tout va bien. Mais en face, le voisin, il voit bien ça. Bah t'as vu, il a de la chance là, d'un coup. Qu'est-ce qui lui arrive là? Et une nouvelle voiture, bientôt il va changer de caravane, bientôt il va faire construire une maison en face de chez nous, non, c'est hors de question. Comment ça se fait qu'il a autant de chance là? Et le voisin, il va voir Joe. Et il lui demande, et Joe, il est gentil. Il parle, il raconte tout, il raconte vraiment tout. Le soir où il a cuisiné une soupe, qui s'est retrouvé dehors, il a marché, la misère derrière lui, et qu'il a enterré sa misère, sa malchance dans un trou derrière la caravane. Voisin, quand il entend ça, il a un petit sourire aux lèvres. Le lendemain matin, Joe part au marché pour vendre des paniers et des chaises. Et le voisin, il prend sa pelle sur son épaule, traverse la route, va juste derrière la caravane. Et là, il y a effectivement de la terre qui a été creusée. Là. Et le voisin, il commence à faire des pelletés. Après quelques minutes, jaillit du trou. La misère, elle sort autour, elle lui court, elle dit oh, merci, vraiment, merci de m'avoir sorti du trou là. Et elle prend le voisin dans les bras comme ça, elle est contente. Et le voisin dit oh, par contre, on va se calmer. Joe, il est là-bas, il est en train de faire de vendre les paniers, il va le retrouver. Joe, celui qui m'a enterré là. Ah non, bah non, je vais pas aller le voir. Par contre, toi, tu m'as sorti du trou. Toi, t'as l'air bien plus sympa. Je pense que je vais rester avec toi. Le voisin, il commence à faire un pas sur le côté. Oh, la misère, elle fait un pas derrière lui. Le voisin, il commence à marcher de plus en plus vite. La misère le suit comme son ombre juste derrière. Et le voisin, il commence à courir dans tout le village, à gauche, à droite. Et juste derrière lui, il y a la misère. Elle est collée, elle le colle au basque et elle ne le lâche plus. En attendant, pour Joe, tout va toujours aussi bien. Il a de la chance. Après une semaine où il est au village, là, il est temps de repartir. Dans sa nouvelle voiture, il a attelé sa caravane derrière lui. Il démarre. Et là, il se dit que, ouais, moi, j'aime bien tout ce qui m'arrive en ce moment.
Bon, il est temps quand même. La soirée est déjà bien avancée. Pour certains, c'est même pas la première, c'est la deuxième. Pour d'autres, c'est même la troisième soirée. Pour d'autres, c'est même la troisième journée. Il est quand même temps que je vous raconte l'histoire de moi-même. L'histoire de monsieur, moi-même. Monsieur, moi-même, dans cette histoire, habite une ville qui s'appelle Ici. Et en plus d'avoir un nom ordinaire, d'habiter une ville ordinaire, il a une vie terriblement ordinaire, et il a entendu parler d'une ville qui s'appelle...
Ailleurs.
Ah, c'est ça, ouais. Ailleurs. T'en as parlé aussi, on en a parlé, et on lui a dit, ah, ailleurs, oh. Les gens, ils sont beaucoup plus joyeux, ils n'ont pas de misère avec eux, ils ont le visage plus lumineux, le sourire plus large, les yeux pétillants, des yamours, tous vraiment adorables. Et quand il voit sa vie, lui, il se dit, tiens, je suis allé voir ailleurs si j'y suis. Comment les gens sont et comment ma vie pourrait être également. Et c'est ce qu'il a fait, un jour, il est descendu en bas de chez lui. Même s'il est beau souillé. Il était une fois, rien qu'une fois. L'histoire d'un instant, rien qu'un instant. Qui, où, comment, pourquoi, et hé, je vais vous le dire. Qui, où, comment, pourquoi, il faut vous dire ça. Il a donc mis ses plus beaux souliers, souliers du dimanche. Il est descendu en bas du numéro 22 de l'avenue du Général Leclerc. Il est allé tout au bout de l'avenue du Général Leclerc. Il a tourné dans l'avenue du Général...
De Gaulle.
Voilà. Dans l'avenue du Général de Gaulle. Au bout de l'avenue du Général de Gaulle, il est arrivé sur une place. La place...
De la Tournée,
si. De... Non.
De la République.
De la République. Exactement. On est ici. Il fait le tour de la place de la République. Il passe devant une banque, devant la boucherie, salami, devant une banque, devant la pâtisserie... chocolat, devant une banque, devant le commissariat, tu seras pris. Devant une banque, devant les avocats, on va tout arranger. Devant une banque, et il arrive, boulevard Victor Hugo. Oh, il n'avait jamais été jusqu'à ce boulevard-là, auparavant. Alors, il va jusqu'au bout du boulevard Victor Hugo, l'aventure commence, il y a un panneau, et sur le panneau, il est écrit « La ville d'ici était heureuse de vous accueillir, vous souhaite un bon voyage. À bientôt. » Il lève le pied et... il passe de l'autre côté. Il était une fois, rien qu'une fois, l'histoire d'un instant, rien qu'un instant. Qui, où, comment, pourquoi ? Je suis en train de le dire. Qui, où, comment, pourquoi ? Il faut vous dire ça. Et il avance vers ailleurs, tout gaillard, il admire les magnifiques paysages qui s'offrent à sa vue pour la première fois. Bientôt se rappeler, bientôt mémoriser pour pouvoir bientôt raconter, une fois qu'il sera rentré. Oh, c'est déjà la célébrité, il la voit venir. Et puis ça, tout ça, ça le fatigue quand même un peu, et cette histoire, heureusement, est bien faite, car il y a, sur le bas-côté du sentier, un banc en bois blanc sur lequel il s'allonge un instant pour se reposer. Et, avant de se reposer, il se dit, je sais pas où je suis, ici. Enfin, d'ailleurs, j'y suis plus. Je suis pas encore ailleurs. Quand je vais me réveiller, quelle direction il faut que je prenne? Et, il enlève ses souliers, qu'il pose sur le bas-côté du sentier, les talons vers... Vous voyez, c'est une bonne idée. La pointe vers exactement. Et là, il s'endort. Du sommeil de juste. Et quand il se réveille, frais comme un gardon, il regarde ses menaces. Exactement comme il les avait posées. Exactement comme il pensait les avoir déposées. Parce qu'alors qu'il dormait, il y a un jeune garçon qui est passé par là, qui a joué avec les chaussures et qui les a retournées de l'autre côté. Et lui se rechausse. Sans rien se douter. Et puis au plus il avance, au plus quand même il lui semble tout reconnaître jusqu'à ce moment où il arrive à un panneau sur lequel il est écrit « La ville d'ici est heureuse de vous accueillir et vous souhaite un bon séjour chez nous. » Merde. Il y a deux villes qui s'appellent ici. il y a ici un, moi d'où je viens, et il y a ici deux, où je suis en train d'arriver. Oh là là, alors que je vais raconter ça à tout le monde tout à l'heure. Il rentre dans la ville d'ici deux, boulevard Victor Hugo. Oui. Il arrive place
de la République.
Je dis, oh là là, ils ont la même place aussi. Il passe devant une banque, devant les avocats. On va tout arranger. Devant une banque, devant le commissariat, tu seras pris. Devant une banque, devant la pâtisserie,
chocolat.
Devant une banque, devant la
boucherie,
salami. Devant une banque, il s'arrête, il se retourne, il se dit, oh, il y a plein de banques, hein, quand même, ici. Pas du ça. Ils ont les mêmes magasins, ils ont les mêmes maisons, ils ont les mêmes rues, ils ont les mêmes gens. Si ça se trouve, il y a mon sosie. Un autre moi-même. Oh. Animé par cette idée surréaliste, fantastique, il file comme une flèche dans l'avenue du Général. Il tourne dans l'avenue du Général. Il s'arrête au numéro
22.
Il a la même baraque que celle qu'il habite de l'autre côté. Il fonce jusqu'au bout de l'être. Monsieur et madame, moi-même. Oh. Il va frapper à la porte. Et là, il entend, allez-y les enfants, je peux pas, je suis en train de préparer à manger. Eh ben nous, on est en train de faire notre devoir. Et ben, c'est ça, vous êtes en train de regarder la télévision. C'est comme chez moi. Il va pas nous à la porte. Là, une femme est en train de s'essuyer les mains, elle lui dit, bon ben alors, t'étais passé où? Oh, je sais, madame. Je ressemble beaucoup à votre mari. D'ailleurs, vous ressemblez beaucoup à ma femme aussi. Mais je ne suis pas votre mari et vous n'êtes pas ma femme non plus. Il y en avait voir des vertes et des pas mûres, mais un coup pareil, c'est pour la première. Et elle qui dit, ah bon? Et depuis quand? Depuis toujours. Je vous explique. Il y a deux villes qui s'appellent ici. Il y a ici un, moi d'où je viens. Il y a ici deux, où vous vous habitez. Il y a les mêmes maisons, il y a les mêmes bâtiments, il y a les mêmes magasins, il y a les mêmes rues et il y a les mêmes gens. Et ces gens-là, ils font la même chose au même moment. Votre mari, il est parti à quelle heure hier? Tu sais bien, 5 heures. Exactement. Exactement au même moment que moi. Et au moment où je suis en train de vous parler, à vous, sa femme, votre mari, parle à la mienne. De l'autre côté. Et entre nous soit dit, je préfère beaucoup plus être ici avec vous qu'être de l'autre côté avec... changera pas. Elle dit, bon, bah bien, puisque vous êtes là, vous allez rentrer et puis prendre un café, peut-être. Tu vois, bon, moi, je me mets là. J'ai le temps. Alors, il rentre, il prend un café, le meilleur café qu'il ait jamais eu. Il prend un biscuit et prend le temps. J'aime bien. Ah, oui, bien ça. Et il dit, bon, bah puisque vous êtes là, vous allez manger avec les enfants. Ah, bah oui, je peux bien. J'ai le temps. Il mange avec les enfants vont se coucher, ils restent assis côte à côte sur le canapé. Elle dit, bon, bah alors, vous voulez un coup à boire maintenant? Oh ouais. Je veux bien, j'ai le temps. Il va chercher un coup à boire. Et lui, il se dit, hé, oh, elle est rudement gentille. Hein. La mienne, jamais elle m'aura offert un coup comme ça. Et il la voit rentrer de la cuisine. Et oh, il la trouve belle. Il en retombe amoureux. Ils sont là, côte à côte, sur le canapé. Ils trinquent, ils se rapprochent, ils s'embrassent, ils se caressent, ils passent toute la nuit. Lendemain matin, lui se réveille. Elle, elle dort encore. Encore plus belle que la veille. Et puis, il voit par la fenêtre de la chambre un poirier fraîchement planté dans le jardin. Il dit, ce con, il a planté un poirier dans son jardin. Comme moi. Eh, oh, je sais ce qu'il faut que je fasse. Hein. Ici, un, c'était bien. Hein. Mais ici, deux, c'est mieux. Parce qu'ici, j'ai le temps. Parce qu'ici, j'ai mon temps. Parce qu'ici, je suis mon temps. Moi, j'aime bien ça. Et c'est ce qu'il a fait. Il est resté à ici deux. L'histoire dit aussi que si vous-même, vous trouvez que vous avez un nom trop ordinaire, habitez une ville, une vie trop ordinaire, mettez-vous souliers, allez voir ailleurs si vous y êtes. Et vous verrez, cette histoire-là est bien faite, mais la vie aussi, car il y aura un banc en bois blanc au moment où vous serez fatigué, afin de pouvoir vous reposer, et un garçon, un mendiant, un homme, une femme, de rien, dit l'histoire, pour retourner vos souliers dans l'autre sens. Et vous verrez, ici un c'est bien, mais ici deux, c'est bien mieux, car on a le temps, on a son temps, on est son temps. Il était une fois, rien qu'une fois, l'histoire d'un instant, rien qu'un instant. Qui, où, comment, pourquoi, je viens de le dire. Qui, où, comment, pourquoi, il fallait dire ça. Qui, où, comment, pourquoi, je viens de le dire. Qui, où, comment, pourquoi, il fallait dire ça. Oh, ça, 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 ça. Oh, ça, 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 ça. Le conte est dit. Je le remets à sa place.
Raconter l'histoire de Sébastien. Et Sébastien, c'est un jeune cadre dynamique. Et aujourd'hui, il est content. Il vient de signer son CDI. Et il a négocié un très bon salaire dans l'entreprise où il travaille, une start-up dans le sport genre FIFA, Jeux Olympiques. Oui, bon, il n'est pas encore marié. Bon, de toute façon, pour lui, les filles, ce n'est pas un problème. Hein. Quand il en veut, il en a. Il se donne encore quelques temps avant de se mettre en ménage, le temps d'avoir un petit crédit, acheter une maison, pouvoir entretenir sa femme, payer de bonnes études à ses enfants, puis les vacances, tous les étés, un grand voyage à l'étranger, les sports d'hiver. Il a tout prévu. Hein. Il aura un garçon et une fille. Oui, il a de la chance. C'est un homme blanc, en bonne santé. Ouais, il a de la chance. Mais il le mérite, hein, parce qu'il travaille. Il travaille beaucoup. Il ne se donne que deux espaces de liberté. Le samedi soir, il va faire la fête. Et puis le dimanche, il va courir. Il va courir dans les collines, la moyenne montagne qui entoure la ville où il habite. C'est une belle journée. Lui, ce qu'il aime, c'est courir beaucoup. Vous savez, on appelle ça le trekking, je crois, cross-country. Aujourd'hui, c'est une belle journée d'automne. Les arbres ont pris leur couleur flamboyante qui joue avec le soleil, le rouge des érables, tous les ocres des châtaigniers et des chênes qui se mélangent avec le vert profond des sapins, l'or des hêtres. Avec le froufrou, du vent, les chants des oiseaux. Enfin, ça, il n'entend pas. Avec un casque, c'est meilleur pour le rythme. Mais il y a des jours comme ça, on n'a pas envie de s'arrêter. C'est la fin de l'après-midi, il sait qu'il aurait dû rentrer, mais il arrive à un endroit qu'il ne connaît pas. Il y a une petite cascade, un ruisseau qui dévale là de la montagne. Et vous savez comment c'est, les cascades, les ruisseaux qui dévalent? On a toujours envie d'aller voir ce qui se passe au-dessus. Une vasque, une autre cascade, une autre vasque, une autre cascade. Et quand il arrive tout en haut, il voit l'eau qui jaillit de la montagne. L'endroit est vraiment magique, féerique. Et au moment où il y arrive, le soleil décline juste derrière les grands arbres. Bon, il est temps de rentrer. C'est plus très bien où il est, mais il n'y a pas de problème. Hein. Il a toujours son GPS. Plus de batterie. Bon, c'est pas très grave. Il a toujours avec lui sa couverture de survie, quelques barres de céréales. Il va dormir là. Demain matin, il se réveillera dès les premières lueurs de l'aube. Il redévalera, il retrouvera bien son chemin.
prendra une douche, il arrivera peut-être un peu en retard au travail, mais une fois n'est pas coutume, et de toute façon, si on lui fait la moindre remarque, il a encore quelques RTT à prendre. Donc il s'installe là, dans sa couverture de survie, il mange ses barres de céréales. Oui, l'endroit est vraiment magique. Il y a le clapotis de l'eau qui sort de la montagne, les petites feuilles d'or des hêtres qui voyagent sur l'eau comme des petits bateaux. Ça se mélange avec la fluorescence des algues et puis le croissement des grenouilles ou des crapauds. Il s'endort. Puis voilà qu'au milieu de la nuit, il est réveillé. Il est réveillé par un bruit étrange, une sorte de bruissement d'ailes. Il ouvre les yeux et il voit là, dans le ciel, une lueur qui tourne. C'est un peu bizarre, ça virevolte dans tous les sens. Bon, ce n'est pas un drone, mais cette lueur s'approche de la vasque d'eau vers laquelle il se trouve et se pose juste de l'autre côté de la vasque d'eau où il est. Il y a derrière une sorte de forme un peu noire, une main qui sort de cette forme et qui saisit la lumière. Et voilà la lumière qui illumine la chose, la forme. C'est une femme d'une beauté extraordinaire. Sa chevelure couvre sa poitrine nue. Elle a deux ailes légères, comme des espèces d'ailes de papillon ou de libellule. Mais le bas de son corps est une queue de serpente. Elle pose la lumière, la chose là, sur le bord de l'eau, et voilà qu'elle glisse dans l'eau, elle se met à jouer dans l'eau, elle joue avec sa queue claque sur l'eau et vient éclabousser toute la clairière. Sébastien même reçoit de l'eau, mais ne regarde plus la femme. Il regarde cette chose là, cette lumière qu'elle a posée au bord de l'eau, parce que ses yeux se sont accoutumés. C'est pas une lumière, c'est une pierre précieuse. Un énorme diamant qui semble diffracter toute la lumière, comme si elle captait la lumière de la lune, des étoiles. Bientôt, la femme, la chose, la forme, sort de l'eau, reprend cette lumière, cette pierre précieuse, elle la place sur son front, s'envole et disparaît dans le ciel, telle une étoile filante. Et Sébastien reste là. Il se demande ce qui s'est passé, est-ce qu'il a rêvé, il se pince, non, il a été mouillé, vraiment il n'arrive pas à se rendormir, et le lendemain matin, dès les premières lueurs de l'aube, il dévale chez lui, il prend une douche rapidement, il va au travail, il a bien du mal à travailler ce jour-là, mais il s'y met parce qu'il est courageux, travailleur, il arrive à se concentrer. Le soir, il rentre un peu plus tôt chez lui et il se jette sur son ordinateur. Il commence à taper les mots femme, ailée, serpent, source, montagne, pierre précieuse. Et très vite, il tombe sur les deux mots, vouivre et escarboucle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces deux mots, hein. Mais Sébastien, lui, jamais. La vouivre, c'est une femme serpente qui vit près des sources, parfois dans les grottes, et elle est gardienne des trésors de la terre, mais ce qu'elle a sur le front, c'est un diamant. Le plus gros diamant jamais observé sur la terre. Et ce diamant s'appelle l'escarboucle. Vous voyez, le monde de Sébastien, il est basé sur deux mots. Vérité, mathématique. Et la vérité mathématique, c'est que ces deux autres mots, vouivre, escarboucle, il ne les connaissait pas le matin même. Et pourtant, là, ce qu'il lit sur son ordinateur, c'est exactement ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Alors, la pierre, le diamant, le plus gros diamant jamais observé sur la Terre, il existe. Vérité mathématique. Je voulais dire, il lui reste quelques RTT à prendre, il décide de les prendre là, tout de suite. Et ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'il est bricoleur. Ça, c'est un truc qui tient de son père, de son grand-père, de génération en génération. Et la tradition, quand ça peut servir, on la garde. Et donc, dans son garage, il a un établi avec tous les outils et commence à se fabriquer une caisse en bois bien solide dans laquelle il puisse se mettre accroupi, se cacher à l'intérieur. Tout autour, il fait une petite entaille, une sorte de petite meurtrière pour pouvoir être, ne pas être vu de l'extérieur, mais lui pouvoir voir à l'extérieur. Et cette caisse, il la hérisse de lames de rasoir et de grands clous bien pointus. Il fait une espèce de housse en mousse pour pouvoir la porter en forme de sac à dos. Et le soir même, il retourne là-haut, près de la source. Il s'installe, mais pas où il était la veille. Il se met de l'autre côté, là où la chose, la forme, enfin la femme s'est posée. Il se cache derrière un buisson et il se met derrière le buisson. Il se cache sous la caisse avec deux sangles bien solides qu'il a mis à l'intérieur pour la maintenir au-dessus de lui. Et il attend. Et au milieu de la nuit, il entend le bruissement d'ailes, la lumière, la chose, la forme, la femme qui se pose là, juste à côté de lui. Et elle prend la lumière, l'escarboucle, et elle la pose juste à côté de l'endroit où il a placé la caisse. C'est étrange cet endroit, c'est comme un petit tapis de mousse, on dirait presque une vulve. La femme, la chose, la forme glisse dans l'eau, et dès qu'elle est dans l'eau, un peu éloignée, Sébastien soulève la caisse, il prend l'escarboucle, il la met dans une petite boîte qu'il a préparée à cet effet. Bien, il serre bien fermement les deux sangles et il attend. Bien sûr, elle la voit vivre. Dès qu'elle a vu qu'on lui a pris son escarboucle, elle sort de l'eau, elle s'approche de la caisse, elle commence à dire « Mais rends-moi mon escarboucle! Mais rends-moi mon escarboucle !» Lui, il ne dit rien, il reste là, les poings serrés sur les deux sangles. Elle essaie de soulever la caisse. Je vous l'ai dit, la caisse est hérissée de clous et de lames de rasoir. Elle commence à se blesser les mains. Elle crie, elle essaie de prendre avec les bras. Elle se blesse de plus en plus avec sa queue. Elle essaie d'entourer ça. J'ai du mal avec cette scène. À vrai dire, je ne suis pas adepte des films d'horreur, mais c'est un peu ça, elle crie, elle hurle, sa queue petit à petit se déchiquette sur cette caisse hérissée de clous et de lames de rasoir. Elle finit son corps complètement déchiqueté autour dans une mare de sang. Et quand enfin il n'y a plus un seul mouvement, un seul cri, Sébastien soulève la caisse. Il prend la petite boîte, il rentre chez lui, il court, il pose la caisse, la petite boîte sur la table. Il sent bien qu'à l'intérieur de ça, il y a quelque chose comme un crime. Mais il ne faut pas y penser. Il décide d'aller voir un banquier suisse, un de ses clients. Et le voilà devant un grand immeuble en verre. Il monte par l'ascenseur. Il a pris rendez-vous. Le banquier le fait asseoir. Jeune homme, je peux quelque chose pour vous ? Eh bien, voilà, figurez-vous qu'il m'est arrivé une histoire un peu étrange. J'ai hérité d'un vieil oncle dont je connaissais à peine l'existence, une vieille maison un peu isolée. Bon, je me suis débrouillée pour débarrasser cette maison et en déplaçant un meuble. Voilà ce que j'ai trouvé. Très impressionnant. Et j'imagine que vous voulez écouler cette pièce. Oui, vous savez, jeune homme, les pierres précieuses ressemblent un peu à des humains ou à des humaines. Ils ne voyagent pas si facilement que cela pour passer les frontières. Il leur faut des passeports, des papiers d'identité, des certificats, j'imagine que vous ne l'avez pas. Oui, il faut faire expertiser cette pierre. Écoutez, voilà l'adresse d'un de mes amis diamantaires à Anvers. Allez le voir, il trouvera une solution. Revenez le voir de toute façon, que vous ayez le certificat ou non. Nous aussi, nous trouverons toujours une solution. Allez, bon courage, jeune homme. Et voilà Sébastien dans le train vers Anvers. Il garde toujours la petite boîte sur ses genoux, près de son ventre. Et quand il l'a près de son ventre, il sent comme une chose étrange à l'intérieur de son ventre. Ça se noue à l'intérieur. Quand il ferme les yeux, il entend les cris « Ah, ça passera !» Et il arrive donc à Anvers, chez le diamantaire. L'homme, asseyez-vous. Vous avez quelque chose à me montrer. Très impressionnant. Oh, c'est un appareil à scanner les pierres. Oh. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Cette pierre n'est pas référencée. Je dois dire que je n'ai jamais vu une pierre comme celle-ci. Vous voyez, chaque peuple, chaque famille, chaque artisan, je devrais dire chaque artiste, a une manière particulière de tailler les pierres. Et celle-ci a été taillée de manière si particulière, de manière si profonde que, on dirait presque une étoile. C'est sans doute cela qui permet qu'elle diffracte à ce point la lumière, même en plein jour, on a du mal à la regarder. Elle est d'une pureté tout à fait impressionnante. Oui, nos ordinateurs ne peuvent pas tout savoir, je suis désolée. Et avant de vous donner un certificat, je voudrais avoir l'avis de deux vieilles femmes. Elles sont un peu particulières, vous verrez. Ce sont deux filles d'une des plus anciennes familles de diamantaires d'Anvers. Et parfois, elles connaissent des histoires que nos ordinateurs ne peuvent pas connaître. Alors, allez les voir de ma part, vous verrez, elles sont tout à fait charmantes, c'est l'heure du thé, vous les trouverez chez elles, je vous aurai bien accompagnée, mais j'ai du travail, vous les saluerez pour moi. Et donc voilà notre Sébastien dans les rues du vieil Anvers, les vieilles maisons, une grande porte en chêne, un heurtoir, on lui ouvre la porte, on le fait entrer dans un boudoir, où là, dans un sofa, il y a deux vieilles femmes assises. Ève, ma sœur, regarde ce qui nous arrive. Un prince charmant. Oh oui, Lilith, formidable. En plus, j'ai l'impression qu'il a un cadeau pour nous. Montrez-nous ce que vous nous avez apporté. Mesdames, si je suis tout à fait charmée, je ne suis pas un prince charmant et ceci n'est pas un cadeau, on m'a demandé de vous demander, enfin, que vous me donniez votre avis sur cette pierre. Ève, ma sœur, l'escarboucle de la vouivre. Oh, quelle chance, nous allons pouvoir mourir en paix, nous l'avons vu. Jeune homme, mais dites-nous immédiatement. Et quand vous avez rencontré la vouivre et comment elle vous a confié son escarboucle? Madame, je suis tout à fait désolée, mais je ne sais pas de quoi vous voulez me parler. Il se trouve que j'ai hérité d'une vieille maison, d'un vieil oncle, et en déplaçant les meubles, j'ai trouvé... Jeune homme, ne mentez pas! Votre nez va grandir comme celui de Pinocchio et venir briser le miroir qui est juste derrière nous. Un miroir, cela porte malheur, parce que mal la vivre et qu'elle vous confie son escarboucle. Mais il n'y a pas de plus grand chance que vous puissiez avoir dans la vie. Mais racontez-nous. Madame, je suis désolée, mais je ne comprends vraiment pas ce que vous me dites. Écoutez, jeune homme, nous allons vous expliquer quelque chose. La vivre est la gardienne des trésors de la terre. Quant à l'escarboucle, c'est le cœur vivant de la terre. Et si vous voulez, nous allons faire une petite expérience. Oui, vous pouvez le faire avec nous si vous voulez. Nous allons tous et toutes mettre nos mains au-dessus de l'escarboucle. Comme ça. Oui. ouvrir les yeux. Maintenant, jeune homme, il vous reste deux solutions. Soit vous prenez cette escarboucle, vous allez la remettre où vous l'avez trouvée. La vouivre reprendra vie. Et ce sera le meilleur pour vous et pour nous tous. Soit vous gardez cette escarboucle pour vous. Vous retournez voir nos amis banquiers diamantaires, ils trouveront à écouler cette pièce auprès de quelques riches saoudiens ou magnats russes. Vous serez riche, très riche. Mais sachez que notre troisième sœur, la mort, est déjà à vos trousses et qu'elle vous trouvera, vous et tous ceux qui vous entourent. Maintenant, à vous de choisir. Sébastien prend congé. Il reprend l'escarboucle et retourne dans sa chambre d'hôtel. Et à l'heure qu'il est, je ne sais pas quelle est la décision qu'il a prise, car il est encore dans sa chambre d'hôtel. Mais ce que je pense, c'est que chacun et chacune d'entre nous possédons un morceau de cet escarboucle. Alors, à chacun et à chacune de savoir ce qu'elle va en faire. Et ces jours-ci, j'ai appris un secret. Je sais comment se nomme l'escarboucle. Elle s'appelle...
Il est l'heure de clore la soirée, de clore ces trois jours. Alors ce soir, on va pas vous raconter une histoire de notre répertoire. On va s'essayer à l'improvisation qui va cristalliser un peu tout ce que nous avons ressenti pendant ces trois jours. Le point de départ est une réflexion de cet après-midi. Il fallait se choisir une image pour représenter Yem. Elle vivait dans une ville. À 7 ans, elle aimait ça. Ses voisines étaient ses copines. 7 ans plus tard, elle y aimait moins. L'adolescente était perturbée. Il y avait du monde. Et 7 ans plus tard, jeune femme, elle n'y aimait pas ça du tout. Chaque matin, quand elle se réveillait, quand elle se levait, ses premiers gestes étaient toujours appuyer sur un bouton, éteindre une lumière, en mettre une autre en route, demander le temps qu'il allait faire pour savoir comment elle allait s'habiller, consulter la montre qui bipait dès qu'elle avait une minute de retard. Elle n'y aimait pas ça. Elle est descendue de l'immeuble. Elle a traversé son quartier. Elle a marché, traversé la ville dans des endroits qu'elle ne connaissait pas. Mais plus loin la ligne, l'horizon de la ville, il y avait une ligne verte. Elle a marché vers les arbres. Et là, enfin, elle respire. Elle va lentement. Elle regarde. Elle écoute. Et lui semble entendre tout ce que les feuilles des arbres veulent lui raconter. Elle met ses histoires dans son cœur, comme des petits trésors. Des mots gris, des mots...
Elle écoute les rires. Elle écoute les babilles d'un enfant, les aboiements d'un chien joyeux. Au bout de la nuit, quand elle se réveille, le long de son bras qui se pose jusque sur les épaules, ses histoires de bonheur. Pas vraiment se montrer, pas vraiment se lier aux autres, mais être là, respirer, goûter, sentir, aimer la vie des autres. Au fil des rencontres, elle a écrit des histoires le long de ses jambes. Des rondes enfantines autour de ses genoux. Elle a écrit des histoires de courses sur ses cuisses, des histoires de naissance sur ses hanches, des histoires au creux de son ventre d'enfants qui ne se sont jamais donné la vie. Elle a écrit sur sa poitrine des histoires d'amour. Elle s'est couchée sur les pierres pour recevoir leurs murmures. Du monde, autour de sa bouche, toutes les chansons d'amour, sur les ailes de son nez, les souffles qui réveillent, autour de ses yeux, les regards qui illuminent le monde, autour de ses oreilles. Elle a donné toutes les clés pour raconter les histoires du monde. Et quand il n'y a plus une seule parcelle de sa peau, sans histoire, sans symbole, sans aucune place pour une écriture, une lettre supplémentaire, elle s'est dirigée vers la montagne. Elle a longé la rivière. Elle est remontée le long du torrent. Il y avait des vasques de pierre qui menaient à la source. Une grande vasque accueillante. Elle est rentrée dans cette eau claire. Elle a écarté les bras. Elle a plongé son visage. Elle s'est allongée. Et à ce moment-là, tous les mots, toutes les histoires, tous les symboles ont glissé dans l'eau. Et se sont dissous. Elle a nagé, traversé la large vasque pour aller de l'autre côté de la rivière. La terre a recueilli l'eau et toutes les gouttes des histoires. La terre a absorbé les histoires sombres, les histoires noires. Elle a relâché dans la rivière les histoires de lumière et d'amour. Et plus tard, des oiseaux sont venus sur les gouttes de rosée. Ils ont attrapé des histoires.